Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Comme les autres. Du Trisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Du Trisac.
Comment se lever d'un verre dans son vieux Volkswagen vert. Il criait à tous les saints, puis avait l'air d'un vieux martien. Puis le moteur chante une chanson.
Ça, c'est du folklore, mesdames et messieurs. Ça, c'est de la culture, Sébastien. Merci. Antoine Joubert est avec nous, il est chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto. Monsieur Joubert, bonjour.
J'ai le tympan qui cille, là, présentement. Là.
Hey, c'est nos chansons, c'est nos classiques, ça, Antoine, là. Faut célébrer notre culture.
Oh oui. Assez, là.
Ou non. Bon, tu veux nous parler des hybrides chez Toyota?
Oui, parce que, écoute, il y a un... Bon, évidemment, à chaque année, Toyota nous envoie des communiqués vantant les mérites de tout ce qu'ils ont fait de bien, puis ils n'envoient pas de communiqués ne vantant pas les mérites de ce qu'ils ont fait de mal.
Évidemment.
C'est clair que les ventes de produits hybrides du côté de chez Toyota vont en forte augmentation. On multiplie les versions hybrides dans chacune des gammes chez Toyota. Bon, j'ai récemment réessayé le RAV4 hybride. Je parle pas du Prime, là, de la version qui est affichable, mais du hybride régulier. Et on a pris cette mécanique-là, on l'a greffé sous le capot de la nouvelle Venza, de la nouvelle fourgonnette Sienna. Et j'ai pu conduire la semaine dernière une fourgonnette Sienna. Évidemment, on le sait, là, le marché de la fourgonnette n'est pas ne va pas en... c'est pas une pente ascendante, bien sûr, mais c'est quand même un produit qui demeure très pertinent. Et à chaque fois que je reprends le volant d'une fourgonnette, que ce soit une Chrysler, une Honda, une Toyota, Kia même, qui offre toujours des produits à ce niveau-là, la pertinence de continuer à offrir un produit comme ça sur le marché, elle me saute aux yeux bien plus que n'importe quel VUS dans lequel faut que tu essaies de trouver de l'espace parce que c'est pas aussi polyvalent. Il n'y a rien pour arriver avec la polyvalence d'une fourgonnette, même si les mamans d'aujourd'hui ne trouvent pas ça sexy. Fait que je reprends le volant de ce véhicule-là et, bon, je me souviens de l'ancienne Sienna qui roulait à 12-13 litres au 100 avec son moteur V6. Et là, on embarque dans une fourgonnette qui roule sous la barre des 8 litres au 100 à moins 15 en hiver. Et je suis flabbergasté par le peu d'essence que ce gros véhicule-là consomme, la polyvalence que ça procure, le comportement routier qui est impressionnant. Et ironiquement, la semaine d'avant, je prenais le volant de la nouvelle Chrysler Pacifica avec rouage intégral, qui, elle, propose un moteur V6. Et j'ai fait du 14,5 litres au 100. Donc là, j'ai fait, on a deux nouveaux produits qui arrivent sur le marché avec rouage intégral. Toyota prend la voie de l'hybride, roule à 7,5 au 100 et ça va être moins que ça en été. Et Chrysler, de son côté, on est à du 14,5 au 100 pour un produit qui va déprécier à la vitesse de la lumière par rapport à une Toyota.
Ah oui, à l'achat, Antoine, est-ce que c'est comparable?
Ben, tout dépend des versions que tu vas choisir. Évidemment, la fourgonnette Chrysler que j'ai conduite, ils m'ont fourni le Nec Plus Ultra, était 69 000 $. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Mais d'un autre côté, ce qui a aucun sens, c'est pas qu'on demande 69 000 $ pour ce produit-là, parce qu'honnêtement, le niveau de luxe et de finition de technologie qu'il y a là-dedans est quand même assez impressionnant. Là où se situe le problème, c'est que l'année d'après, ça vaut 35 000. Parce qu'il n'y a pas de demande pour un produit comme ça, parce que Chrysler n'a jamais réussi à bien placer son produit sur le marché pour remplacer la Grand Caravane, si bien que c'est un produit qui se vend pratiquement pas, alors que les fourgonnettes Honda et Toyota conservent leur valeur. Donc, tu achètes une Sienna, même si tu paies 50-55 000 selon les options que tu vas choisir, C'est un véhicule qui roule à 7,5 au 100, qui est capable de transporter ta famille, qui est super polyvalent et qui va se revendre à très haut prix parce qu'il y a une demande sur le marché d'occasion pour ces modèles-là. Alors moi, j'ai vraiment été impressionné par ça et je considère que Toyota va se démarquer pour une fois avec sa fourgonnette Sienna dans un marché qui va pas en augmentant, mais qui ne se résume qu'à 4 constructeurs aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'ai vraiment été impressionné par cette technologie-là qui fait un travail exceptionnel.
OK, explique-moi une chose, Antoine. Là, ça veut dire que ça, c'est hybride, mais il est pas branchable. Ça veut dire que c'est le moteur à essence qui recharge le moteur électrique?
C'est-à-dire que le moteur électrique vient assister le moteur à essence pour offrir une puissance adéquate. Et lorsqu'on n'a pas besoin de certains niveaux de puissance, on roule en électrique tout simplement. Donc, si tu roules majoritairement en ville, tu vas consommer moins que si tu roules que sur l'autoroute.
Non, mais t'as une batterie qui se décharge pendant ce temps-là.
Ben, c'est une batterie qui se décharge et qui se recharge avec l'énergie cinétique qui provient du freinage, par exemple. Mais c'est le même principe qu'une hybride il y a 15 ans, là. C'est juste qu'on a amélioré la formule et qu'aujourd'hui, on est capable de jumeler un moteur à essence traditionnel à un moteur électrique et une batterie de petite taille qui font un travail exceptionnel. Pour moi, je dirais pas que c'est le meilleur des mondes parce qu'évidemment, plus on roule en mode 100% électrique, mieux c'est. Mm-hmm. Mais dans le contexte où on vend ce véhicule-là sur un marché nord-américain, qui de façon générale veut rien savoir de l'électrique, et ce véhicule-là te donne pas l'impression d'un, je veux dire, t'as aucun effort à faire pour brancher ton véhicule, tu sais, je veux dire.
Mais est-ce que tu connais l'autonomie sur un réservoir d'essence?
Ah, plus de 700 kilomètres.
Ah oui, quand même, hein?
Plus de 700 kilomètres. J'ai fait un aller-retour au Québec sans mettre d'essence, moi, avec ce véhicule-là. Alors, je peux te dire que c'est vraiment exceptionnel.
Ouais. C'est comme le meilleur compromis, hein, entre l'électrique qui nous stresse tout le temps parce qu'on sait pas s'il y a une borne là où on s'en va et la voiture à essence qui pollue puis qu'il faut arrêter d'utiliser. C'est comme la transition, là, dans le meilleur des mondes.
Ben, c'est non seulement que c'est une transition, mais je veux dire, c'est une transition qui dure depuis longtemps et que les gens continuent à se demander s'ils devraient adopter 20 ans après l'introduction de cette technologie-là par Toyota avec la Prius en 2000 au Canada. Donc, c'est vraiment, évidemment, la Prius, lorsque c'est arrivé, ça a beaucoup évolué depuis, là, pas besoin de te dire, mais d'aller chercher une puissance de plus de 200 chevaux avec un petit 4 cylindres, avec un moteur électrique qui t'offre un couple initial super intéressant. Mm-hmm. J'ai vraiment, vraiment trouvé que cette formule-là que Toyota adoptait pour sa fourgonnette était totalement réussie.
OK. Les concessionnaires américains font pas pitié, hein, cette année?
Écoute, j'ai trouvé ça intéressant parce que je savais de plusieurs sources que les concessionnaires de véhicules neufs cette année avaient fait des profits supérieurs à 2019. Donc 2020 avait été une meilleure année que 2019 malgré une baisse de vente de 20% de leurs produits. Et ça s'explique bien sûr par le fait que on n'avait pas beaucoup d'employés à payer, on n'avait pas beaucoup d'inventaire à supporter. Les ventes qu'on faisait, les marges de profit étaient plus intéressantes parce que l'inventaire était bas, parce qu'il y avait une demande sur certains produits. Donc, il y a un paquet de facteurs qui expliquaient ça. Mais la NADA, qui est en fait l'équivalent de la CADA, donc l'Association des concessionnaires automobiles des États-Unis, dévoilait dans le fond, dans le magazine Automotive News, que les concessionnaires avaient eu une augmentation de profit de 48% en 2020 par rapport à 2019. Ils ont fait en moyenne 2,1 millions de dollars de profit chacun des concessionnaires américains. Et évidemment, pas besoin de te dire que du côté canadien, ça doit y ressembler. Mm-hmm. Un peu moins, je dirais, parce qu'au Canada, on a été forcé de fermer des concessionnaires pendant un certain temps. Les règles n'étaient pas les mêmes, mais il en demeure pas moins que la profitabilité par véhicule a fortement augmenté. Et parce que les constructeurs forcent moins la note sur de gros inventaires chez des concessionnaires, ben les concessionnaires sont capables de faire des profits qui sont nettement supérieurs à ce qu'on faisait dans le passé. C'est ça le nerf de la guerre des concessionnaires, c'est de conserver un inventaire le plus bas possible et d'écouler ces véhicules avec une marge de profit intéressante. Et on le voit actuellement, c'est encore la folie au niveau des camions pleine grandeur. On n'est pas capable d'en avoir. Tu veux un F-150 demain matin, tu vas l'attendre 3-4 mois, mais attends-toi pas à avoir 10 000 $ de rabais, là.
Ouais, non, c'est ça.
Il n'y en a plus de ça.
Ça va être le plein prix, hein, parce que c'est l'offre et la demande, de toute évidence.
Ben, c'est l'offre et la demande, effectivement, et c'est la capacité du constructeur à fabriquer ses véhicules puis à fournir le marché canadien, parce qu'évidemment, comme on manque de véhicules, on manque de pièces, il y a un gros manque au niveau des processeurs en ce moment pour fabriquer des véhicules.
Ouais.
Ben, comme il y a un manque à ce niveau-là, évidemment, on va d'abord fournir le marché américain où les ventes sont plus payantes que le marché canadien à cause du taux de change.
Mmh.
Donc, c'est d'une évidence. Donc, chez nous, c'est un problème et c'est doublement un problème puisque lorsqu'on vend un camion neuf, ben souvent, 6 mois, 1 an après, ce véhicule-là va se retrouver chez un revendeur qui va le rapatrier aux États-Unis où la demande dans l'occasion est très forte aussi et plus payante. Donc, on se retrouve avec une pénurie de camions en ce moment chez nous. Mais c'est ça, je pense qu'on va continuer de voir ça pour encore un certain temps.
Bon, et je pensais que la solde de Kia était censée disparaître.
Écoute, je conduis ce véhicule-là cette semaine et c'est pour ça que je t'en reparle. Parce que je l'avais conduit lorsqu'elle est arrivée sur le marché. Et honnêtement, quand tu compares ce qui existe actuellement sur le marché, tu prends le volant de ça, tu fais, sais-tu, c'est un sacré bon petit véhicule électrique. Selon la version que tu vas choisir, l'autonomie peut varier, parce que tu peux prendre une version avec une autonomie qui est autour de 275 km, là, je me souviens pas du chiffre exact, et sinon, ben, tu es à 390 avec la version qui a la plus grosse batterie. En hiver, ça baisse un peu plus, je te dirais, que dans le cas d'une Chevrolet Bolt. L'autonomie là maximale va être autour, là, dans un contexte de moins 10 degrés, là, on est autour de 250-260, autour de ça quand il fait vraiment froid. Mais ça demeure au niveau polyvalence, au niveau maniabilité, au niveau puissance et plaisir de conduire un produit qui est vraiment étonnant. Puis qui a l'avantage d'être garanti plus longtemps que la moyenne des autres véhicules du marché. Alors j'ai trouvé que c'était quand même un produit intéressant. Et finalement, ben les concessionnaires Kia prennent ça au sérieux. Tu sais, il y a une certaine époque où tu voulais t'acheter une Soul électrique, t'arrivais là-bas, puis ils faisaient tout pour t'asseoir dans une voiture à essence. Ben là, c'est pas le cas. Ils en ont en inventaire. C'est un produit qu'on est capable de promouvoir, de vendre avec...
Mais c'est un peu... Il y a quelle couleur, le véhicule que tu conduis? Moi, je n'ai essayé un l'année passée, puis c'était comme 55 000 $. Là, tu dis, attends une minute, là. Une Kia, 55 000 $.
Ben, c'est l'erreur que Kia a fait aussi en arrivant avec ses premières soldes. C'est qu'on t'arrivais pour acheter ce véhicule-là, puis on aurait dit qu'on s'était inspiré des trois couleurs proposées par la pâte à dents Aquafresh pour te vendre un véhicule.
Ouais.
Tu sais, t'avais un turquoise pastel avec des garnitures blanches, puis des roues qui avaient de l'air des micro-sillons, là.
Ouais.
On a éliminé ça, là, puis on a donné un look un peu plus traditionnel au véhicule. Le véhicule que j'ai là est d'un bleu assez voyant, mais uniforme, très élégant, là. Tu peux l'avoir dans des couleurs plus classiques, là. Le noir, le blanc, comme ce qui se vend à peu près partout. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vrai que le véhicule, initialement, est pas donné. Mais je pense que pour celui qui n'a pas nécessairement besoin d'une super grande autonomie, d'aller opter pour la version d'entrée de gamme qui, avec les crédits gouvernementaux, revient autour de 30 000 $, ben là, ça commence à être un peu plus intéressant.
Mais il y a la comment ça s'appelle, pas la Rondo chez Kia, là, il y a la Niro.
La Niro, Niro.
Qui est un petit camion qui est comme le Kona, finalement. C'est comparable, et l'autonomie est comparable.
C'est exactement la même technologie, mais la Niro, au chapitre de sa version de base, elle est, à mon sens, inintéressante. Et lorsqu'on s'en va dans le modèle plus équipé, ben là, la facture est élevée. Là, on est à du gros 55 000 $. Alors, c'est ça qui est un peu décevant, c'est que on a un véhicule qui est quand même assez cher pour la technologie qu'on propose.
Mmh.
Une Soul et une Kona de Hyundai qui offrent la même technologie vont coûter moins cher. Et c'est un peu pour ça que la Niro, on en vend, mais pas tant que ça. Là, évidemment, les concessionnaires en ont un peu plus qu'ils en ont eu à une certaine époque, mais ça demeure un produit qui, selon moi, n'est pas voué à une carrière encore très longue parce que c'est une espèce de pseudo VUS, mais qui fait plus voiture familiale, format Toyota Matrix, par exemple, là. Ça semble pogner un peu au Québec, mais à l'échelle nord-américaine, pas pantoute. Alors moi, j'ai pas l'impression que Kia va mettre beaucoup d'énergie là-dedans. En fait, ce qui serait absolument logique, c'est qu'on prenne cette technologie-là et qu'on la greffe dans le nouveau Seltos, ce qui est tout à fait possible, parce que c'est un partage de plateforme avec le Kona. Et à ce moment-là, le Niro serait carrément appelé à disparaître.
Très bien. Antoine Joubert, du Guide de l'Auto, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Tu peux remettre ta musique folklore maintenant.
Merci. Salut.
Salut.
3, 2...